Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 4 février, une génération sans tabac, celle qui, pour ceux qui auront 20 ans en 2030. C'est l'espoir d'Emmanuel Macron. Dans son plan cancer, il y a bien sûr des mesures sur la prévention, le dépistage, mais il souhaite surtout limiter les cancers évitables dus au tabac et à l'alcool. Une partie du sud-ouest vue d'en haut ressemble à un lac. L'heure est à la décrue, mais plusieurs villages ont les pieds dans l'eau. Nous irons à la Réole, en Gironde, qui vient de subir sa plus grosse crue depuis 40 ans. Et nous serons en ligne avec le maire de Couture-sur-Garonne, quasiment coupé du monde. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
La pluie fait une pause, bienvenue aujourd'hui.
Oui, bienvenue comme vous dites, parce qu'il y a toujours 15 départements malgré tout en vigilance orange crue. Et le Lot-et-Garonne est toujours en rouge. Il y a tout de même cette nouvelle perturbation, mais elle est peu active. Donc elle donne juste quelques rares et faibles pluies entre l'Aquitaine et le Nord-Est. Pas grand chose, de part et d'autre, beaucoup de nuages. Mais plus on s'éloigne de cette zone et plus on aura la chance d'avoir des éclaircies. C'est le cas sur la Bretagne, les Pyrénées et la Corse. Les températures, elles sont en baisse, mais toujours douces pour la saison, comprises entre 9 et 16 degrés cet après-midi.
Et dans RTL Midi aussi, un Français sur 6 vit aujourd'hui dans un désert médical. La situation s'aggrave. Nous serons en ligne avec le vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Deux perquisitions en cours à Marseille chez les supporters de l'OM après l'attaque de la commanderie. Et puis nous roulerons en voiture électrique. Les ventes en Europe ont doublé l'an dernier. Elles ont même dépassé au dernier trimestre celle du diesel. La question du jour sur RTL.fr. Emmanuel Macron souhaite une génération sans tabac en 2030. Est-ce possible? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour, c'est dans 8 ans.
Oui, 2030. C'est demain quoi.
C'est demain. Effectivement, excellente question. Autre question, et vous pourrez continuer de réagir à l'affaire Richard Berry après les nouvelles accusations de sa fille, dont vous parlerez, j'imagine, dans le journal. C'est une phrase également qui vous fera sans doute réagir. Hier soir à l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, a dit « Savez-vous que le voile d'une mariée chrétienne signifie le fait qu'il y a une soumission de la femme à son époux ?» Troisième sujet du jour, y a-t-il une discrimination anti-vieux? Est-on en train de sacrifier l'avenir des jeunes? Et c'est vrai que plusieurs fois, nous avons posé cette question. Entre 13h et 14h30, toutes ces débats.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, perdre les eaux alors qu'on est cerné par les eaux en pleine inondation dans le sud-ouest. Une future maman de Pradines dans le Lot a appelé le SAMU et les sauveteurs ont dû se mettre à l'eau pour l'aider à accoucher. C'est votre coup de cœur du jour, Patrick Tégéraud.
Oui, un bel acte de courage. La route était coupée, l'équipe du SAMU avait donc pris place dans un gros camion de pompiers. Trop gros peut-être, car le courant l'a entraîné dans le fossé. Alors le docteur Julia Darol et son équipe du SAMU 46 s'est littéralement jeté à l'eau.
C'est surtout qu'on voyait le papa très stressé et je me suis dit, voilà, c'est la vie qui nous attend de l'autre côté de la rive, il faut les aider à tout prix. Et donc je n'ai pas réfléchi, j'ai vu que c'était assez sécuritaire et que le courant n'allait pas m'emporter, donc j'ai sauté, ouais.
Suivi de Manu, l'ambulancier, de Bérangère, l'infirmière et d'Aurore, l'interne.
On avait de l'eau jusqu'à quasiment la poitrine. Hein. On a couru dans l'eau, en fait, et on était trempés jusqu'aux os, je dois bien le dire. On a mis de l'eau les pauvres partout chez eux, du coup.
Le petit Magid est donc né sans souci, sa maman Vanessa se porte bien. Et pour les emmener au centre hospitalier de Cahors, les pompiers ont dû mobiliser plongeurs et zodiacs, car le courant avait forci. En quelques minutes, la traversée était devenue encore plus périlleuse. Mais pour Julia et ses compagnons, rien ne pouvait les arrêter.
C'est notre mission et c'était notre but ultime, donc j'ai pas du tout pensé à ma propre, voilà, je me suis dit c'était sûr qu'on allait passer de l'autre côté et que c'était au bout une belle rencontre qui allait se faire, donc on n'a pas hésité un seul instant, oui.
Vanessa et son petit Magid se reposent à l'hôpital de Cahors et toute l'équipe du SAMU a bien sûr été félicitée.
Une belle histoire du jour racontée par Patrick Tégéraud. La Garonne a pris ses aises. L'heure est à la décrue dans le sud-ouest, mais l'eau est montée jusqu'à 10,20 m à Marmande. 45 routes départementales sont encore coupées ce matin dans le Lot et Garonne. 12 complètement submergées, 6 écoles fermées. Toute la région ressemble à un gigantesque lac. Denis Grandjou, vous êtes à La Réole, en Gironde, où l'eau a atteint 9,69 m. C'est une cité lacustre.
Oui, je me trouve sur la digue en pierre, rive droite de la Garonne. Juste face à moi, il y a la réception du camping de la Réole, totalement submergé. On aperçoit simplement quelques tuiles du toit. L'eau est à une trentaine de centimètres de la limite de la digue, mais à certains endroits, les digues ont rompu, causant des dégâts en contrebas.
Ça y est, c'est rentré dans la maison. Et depuis 7h30, regardez comment ça montait là.
Il y a une vague qui est arrivée, ça m'a arraché des planches. Ah oui, les congélateurs pleins, ils flottent.
Bien sûr, à La Réole, la solidarité s'est organisée et les 25 employés municipaux sont tous sur le pont, aidés par les pompiers.
Il y a une dame qui habite en contrebas là. On vient de lui en amener des porte
copain.
S'il y a vraiment besoin de quelque chose, vous le dites. Hein. Attendez pas le dernier moment si vous avez besoin d'aide ou comme ça.
Bruno Marty, le maire de La Réole, avoue sa surprise face à l'ampleur de cet événement.
Hier, déjà à 16h30, on nous avait dit que c'était le pic et d'un seul coup, on a pris 50 cm en 5 heures. Ce matin, à 3h30, c'était calme et c'est reparti, on a pris 6 cm. C'est un océan, oui, à perte de vue, et donc ça inonde toute la plaine.
Alors pour le moment, il semble, je dis bien il semble, que l'eau de la Garonne ne monte plus. Un numéro spécial a été mis en place car le numéro des pompiers est totalement saturé. C'est le 05 56 61 13 22.
Merci Denis Grangeau à La Réole pour RTL. Et on part 15 km plus loin. Le village de Couture-sur-Garonne, pourtant habitué aux épisodes de crue, est complètement encerclé par les eaux. Nous sommes en ligne avec Monsieur le maire. Bonjour Jean-Michel Moreau.
Oui, bonjour.
Alors quelle est la situation à l'heure où on se parle ?
Mais la situation, l'onde de crue, le pic de crue a été atteint ce matin. Aujourd'hui à midi, le fleuve a commencé à baisser légèrement. Et dans le village, puisque nous sommes un village de 370 habitants qui est complètement isolé, puisque si on veut aller à la première terre ferme, rive droite ou rive gauche, il faut que nous prenions nos embarcations sur 2 km. Et c'est le rôle de la réserve communale de pratiquer cela et d'aller rendre visite à toutes nos fermes isolées.
Donc ça veut dire que les habitants doivent prendre le bateau pour se déplacer, c'est ça ? Et où vous avez dans la commune, vous avez des bateaux à disposition ?
Voilà, la commune depuis de nombreuses années, nous avons des embarcations et nous avons une équipe des sauveteurs. Cette équipe de sauveteurs gère ces bateaux. Aujourd'hui, on a 5 bateaux qui sont en action, plus le pêcheur du coin qui a un bateau qui nous rend grandement service et d'autres personnes. Donc, chacun a son quartier, chacun a ses maisons et ses hameaux dans la campagne et on distribue, on avance dans ce sens-là.
Bon, est-ce que vous avez dû faire quelques évacuations ?
On en a fait tout à fait au début en prévision de ce cru, mais à cause du Covid, on aurait dû pouvoir en éviter en avoir quelques-uns en supplément. Donc on a fait l'inverse. Donc trois personnes âgées ont été évacuées et 10 personnes sont restées dans le village. Et on a fait l'inverse. On a demandé aux infirmières et aux sociétés qui font les portages de repas de venir s'en occuper directement dans le village et donc pour limiter le déplacement de nos personnes âgées.
Évidemment. Votre village est régulièrement inondé, Monsieur Moreau. En quoi est-ce différent cette année ?
Ben, c'est différent parce que nous avons connu des précipitations qui n'ont pas été régulières tout à fait au départ. Et donc, on a eu des après-midi où il ne pleuvait pas. Donc, après, quand la crue est arrivée, comme disait monsieur le maire de La Réole, ces zones de crue sont passées successivement. Alors, les uns et les autres disaient « elle ne monte plus, ça s'arrête ». Mais malheureusement, on en est à une situation qui est quand même assez importante parce qu'à 9h50, nous, dans notre commune de Couture, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure à 10 mètres à Marmande, nous, on a eu ce matin, à 3h du matin, on a eu 2 ruptures de digues, et c'est ça qui nous embête un petit peu, quoi.
Mmh. Qu'est-ce que vous demandez au service de l'État aujourd'hui ?
Bien, au service de l'État, depuis des années, au travers des courriers que je leur envoie et au travers de toutes de ces discussions, moi, ce que je reproche un peu, c'est que, d'une part, on n'est pas une prévision à 12 ou 18 heures. Je ne comprends pas pourquoi, avec tout le matériel informatique et tous ces capteurs que nous avons dans tout ce bassin versant, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une prévision qui nous permettrait à nous, les élus, on nous demande à nous, les élus, d'avoir notre rôle. Donc c'est de prévenir, alerter les populations, etc. Mais comment pouvons-nous le faire si on a des informations que 4 heures avant ? Alors
sûr.
Là, bon, je ne sais pas si on arrivera à trouver une solution, mais je crois que ça doit être possible. Quoi.
Mm-hmm. En tout cas, il y a un manque d'anticipation, c'est ce que vous dénoncez ce matin. Merci beaucoup Jean-Michel Moreau et bon courage parce que la situation va durer encore quelques jours chez vous à Couture-sur-Garonne. Mieux vaut prévenir que guérir. Le cancer qui cause la mort de 150 000 personnes chaque année dans notre pays reste la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Emmanuel Macron lance ce matin un nouveau plan cancer et il nous demande de changer nos comportements.
Le tabac est et reste à l'origine de 70 000 nouveaux cas de cancer chaque année. 70 000. C'est presque la moitié des cancers évitables. Le tabac tue Il détruit des vies, on ne le dit jamais assez. Et je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l'histoire récente. Pour ce faire, tous les leviers de dissuasion seront actionnés. Le prix, nous avons déjà largement commencé et nous continuerons. L'extension des espaces sans tabac, les campagnes d'information sur sa toxicité pour les êtres, mais aussi pour la planète, un meilleur accompagnement de ceux qui arrêtent de fumer, comme de ceux qui les y aident.
Le tabac ou encore l'alcool. Et Virginie Guérin, dans ce plan cancer, il est d'abord question de prévention et de dépistage.
Oui, alors la prévention d'abord. Aujourd'hui, on pourrait éviter 40% des cancers. On connaît parfaitement leurs causes, le tabac, l'alcool. Emmanuel Macron veut donc réduire le nombre de ces cancers évitables de 50 à 60 000 par an en 10 ans par des campagnes ciblées surtout vers les jeunes. Et puis pour le tabac, on l'a entendu, en continuant à augmenter les prix. Il y a aussi le dépistage. Il y a 9 millions de dépistages par an aujourd'hui. Il faudra en faire 1 million de plus dans 4 ans. Enfin, mieux soigner. Le président de la République mise sur la science. Le budget consacré au cancer va augmenter de 20% dès l'an prochain et la moitié sera consacrée à la recherche.
Et justement, beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années.
Ah, des progrès considérables. Le traitement phare reste la chimiothérapie, mais grâce à la génétique, les traitements sont aujourd'hui ciblés, adaptés à chaque malade, ce qui les rend plus efficaces. On les tolère aussi beaucoup mieux. Et puis, on soigne désormais avec des anticorps associés à la chimiothérapie. Des résultats sont déjà constatés pour des leucémies. Le grand espoir, c'est aussi le vaccin contre le cancer. On prélève des cellules cancéreuses sur le malade et on fabrique avec un vaccin qui active son système immunitaire. Enfin, il y a cette révolution médicale qui est en train de faire ses preuves contre le coronavirus. C'est le vaccin à ARN messager et qui pourrait permettre de traiter rapidement aussi des cancers.
À Virginie Guérin, et on rappelle qu'en France, 4 millions de personnes vivent avec un cancer. Dans un instant, le gouvernement qui veut à tout prix éviter un reconfinement.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Responsabiliser les Français pour éviter un nouveau confinement. Jean Castex, qui s'exprimera à 18h, devrait appeler à la mobilisation générale. Hier encore, on enregistrait plus de 26 000 nouveaux cas, dont 14% de variants anglais, plus contagieux. On est toujours sur un plateau haut et les services de réanimation recommencent à être saturés, comme vous nous le révéliez ce matin sur RTL à Gatlandais.
Oui, et c'est le cas de beaucoup d'hôpitaux franciliens qui vont devoir recommencer à déprogrammer des opérations non urgentes dans les jours à venir. Une forte tension sur les réa en Ile-de-France qui inquiète les soignants. D'autant qu'on le rappelle, Paris concentre plus d'un quart des lits de réanimation au total du pays. Dans d'autres régions, la situation est même encore pire. Dans toute la moitié est du pays, on est en fait déjà dans le rouge depuis des semaines. En région PACA, les réanimations sont occupées à 86%. La PHM a transféré ses deux premiers malades en Bretagne la semaine dernière. Les hôpitaux de Marseille, qui d'ailleurs ont aussi recommencé à déprogrammer la moitié de leurs opérations chirurgicales non urgentes. La situation n'est pas meilleure en Auvergne-Rhône-Alpes avec des réas pleines à 96%. Ça, c'est pour les hospices civils de Lyon. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, c'est là que la tension sur les réas est la plus forte, avec déjà 20 malades évacués vers d'autres régions en une semaine. Allez, quand même une petite lueur d'espoir néanmoins. Pour le moment, les régions de l'Ouest, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, là, ils sont encore épargnés. Les services de soins intensifs ont encore de la marge pour accueillir des malades.
Voilà, c'était le point très complet d'Agathe Landé. Pour lutter contre la montée de l'épidémie, le gouvernement veut renforcer le télétravail. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, rappelle qu'il doit être la règle pour l'ensemble des activités qu'il permette. En pleine crise sanitaire, un Français sur six vit aujourd'hui dans un territoire où l'accès aux soins est mal assuré. Il y a une aggravation des déserts médicaux en zone rurale. C'est le résultat d'une étude commandée par l'Association des maires ruraux de France. Le nombre de cantons dépourvus de médecins a augmenté de 62% entre 2010 et 2017. Frédéric Perruche, vous êtes à La Grêle. C'est à une vingtaine de kilomètres de Roanne, dans la Loire. Et dans ce canton, on manque de plus en plus de médecins.
Oui, dans ce village de 872 habitants, entouré de collines verdoyantes, il ne faut pas tomber malade, résume avec humour Gérard, 87 ans.
Ah, La Grêle, il n'y a rien. Il n'y a pas de permanence, il n'y a rien. Il n'y a rien. Faut courir, faut prendre la voiture. Si vous n'avez pas votre permis de conduire, si vous n'avez pas une voiture, eh ben, vous n'avez qu'à vous laisser mourir. Faut pas être malade, non. Je prie le bon Dieu de rester en bonne santé. Hein.
À La Grêle, il n'y a pas de médecin et les rares encore en fonction dans les environs affichent complet, comme a pu le constater à ses dépens Lucie, 77 ans.
J'ai appelé 3 jours de suite pour avoir un rendez-vous avec le docteur. où y aller ou qui viennent, et ça a toujours été non. Et ben, j'ai une fille qui m'a emmenée aux urgences. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué.
Six généralistes ont pris leur retraite dans les communes environnantes, remplacées par deux médecins qui ne peuvent faire face, explique Isabelle Dujolet, maire de La Grêle.
Ça peut être un délai entre 1, 2 ou 3 mois. Pour pouvoir consulter. Donc ça, on ne peut pas considérer que c'est acceptable pour des soins qui ne sont pas programmés. La maladie, elle ne prévient pas quand elle arrive. Quand on parle de catastrophe sanitaire, on est en plein dedans. C'est tout aussi important et grave que la crise de Covid que l'on vit actuellement.
Alors souvent, il faut se rabattre sur l'hôpital de Roanne, à 25 km.
Un reportage Frédéric Perruche. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Dominique Dumaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Des délais de 3 mois, comme on vient de l'entendre, hein, du côté de Roanne, pour consulter, ça c'est quelque chose dont vous entendez souvent parler ?
Oui, oui, on en entend forcément souvent parler. C'est surtout le début de la crise seulement, hein, car on sait tous que la pyramide des âges des médecins généralistes fait que nous allons avoir énormément de départs en retraite sur les prochaines années. Et qu'en parallèle, la population augmente et vieillit. Et donc forcément, le nombre de médecins qui, à court terme, n'auront plus de médecins traitants va exploser.
Quelles sont les régions les plus touchées aujourd'hui ?
Alors, c'est des départements forcément dits ruraux ou hyper-ruraux, moins attractifs, où donc les médecins généralistes ont moins tendance à vouloir se rendre pour exercer leur profession à l'issue de leur internat. On a des départements comme la Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loir, l'Allier, beaucoup de régions du Massif central qui sont touchées par cette absence de médecins généralistes ou de spécialistes, parce que évidemment les spécialistes, c'est aussi un véritable problème.
Mmh. Comment attirer les jeunes médecins aujourd'hui dans les zones rurales ?
Je pense que le problème de l'attirance, c'est pas forcément le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de médecins. En fait, la population en France a augmenté, le nombre de personnes âgées augmente aussi, qui sont souvent plus consommatrices en soins. Et donc, on voit bien, et le nombre de médecins a augmenté aussi significativement, mais pas suffisamment. Et on voit que dans certains départements, aujourd'hui, le manque de médecins est significatif. Et donc, tant que le numerus clausus qui a été supprimé ne fera pas effet, c'est-à-dire dans 7-8 ans...
Oui, fait, parce qu'il a été supprimé, et quand même, le nombre de places à l'issue du concours de première année de médecine a triplé hein, par rapport aux années 90. Donc, ils ne devraient pas tarder à arriver, ces jeunes médecins.
Pas tarder, c'est dans 6 ou 7 ans. On a des départements aujourd'hui où on a déjà près d'un tiers de la population qui n'a plus de médecin traitant. Et on sait que quasiment la moitié de certains départements n'auront plus de médecin traitant dans 3 ou 4 ans. Et l'effet du numerus clausus n'aura pas porté ses effets. Donc on sait aujourd'hui que dans certains départements dits ruraux ou hyper ruraux, l'accès aux soins va être une véritable bombe à retardement pour la société.
Mmh. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les maires ? On a souvent vu des maires qui se sont débrouillés pour salarier des médecins dans leur village. Et ça suffit pas ?
Ça suffit pas. Aujourd'hui, un maire qui réussit à retrouver un médecin, à moins que ce soit un jeune qui sorte ses études d'internat, autrement, ça veut dire qu'il l'a pris à un autre territoire. Aujourd'hui, le fait qu'on n'ait plus assez de médecins généralistes au niveau national fait qu'obligatoirement, lorsqu'on a un médecin qui arrive, qui était déjà en exercice, il a été pris à un autre territoire qui va en manquer. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est d'imposer sur un temps donné une obligation pour que les médecins s'installent dans les zones sous-dotées lorsqu'ils sortent de leurs études, qu'on fasse une pause sur cette liberté d'installation que les médecins généralistes chérissent tant, qu'on augmente aussi la capacité pour les infirmières de faire des actes en termes d'accès aux soins les plus courants pour libérer du temps médical, et puis qu'on libère aussi la téléconsultation, qu'on la développe au maximum pour permettre à tout ce qui est consultation basique de renouvellement de soins, etc., qu'elle puisse se faire pour libérer du temps médical aux médecins qui en ont tant besoin pour assurer la continuité de soins pour tous les gens qui manquent aujourd'hui de médecins généralistes.
Donc c'est un cri d'alarme que vous lancez aujourd'hui, et vous nous dites qu'il faudrait imposer une obligation d'installation pour les jeunes médecins. Merci beaucoup Dominique Dumaux d'être intervenu dans RTL Midi. Merci.
Merci.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
L'insoutenable procès de Tony, l'enfant martyr battu à mort par son beau-père à l'âge de 3 ans, coincé entre un homme impulsif et violent et une mère immature et passive. Ce matin, la mère de l'enfant a témoigné pour la première fois devant les assises de la Marne et elle a été incapable, Anne Le Hénaff, d'expliquer pourquoi elle n'a pas sauvé son fils.
Je ne sais pas, j'ai jamais voulu tout ça. Ces phrases, elle les répète en boucle entre deux sanglots, boule de malaise cramponnée à la barre. Je m'interposais, je les séparais. Le petit me montrait pas qu'il allait mal. 4 jours avant sa mort, Loïc Vental lui donne des coups de poing, le jette contre l'armoire. Le lendemain, encore plusieurs coups de poing dans le ventre. Vous lui dites d'arrêter, sinon il va le tuer. Donc vous saviez, dit la présidente. Caroline triture son mouchoir, je pensais pas que c'était si grave. Les légistes ont dit que ses coups lui ont fracturé la rate, ce qui entraîne des douleurs insoutenables. Il ne mangeait plus depuis plusieurs jours. Oui, mais je pensais que c'était une gastro. Alors pourquoi vous n'allez pas chez le médecin ? Silence. Les bleus, j'avais peur que les médecins les voient et me demandent pourquoi. Tony en avait 60, des bleus selon le médecin légiste. Quelle quantité de lésions faut-il pour que vous alertez ? Pas de réponse. Pourquoi vous n'appelez pas à l'aide ? Il m'en empêchait. Pourquoi vous ne partez pas ? Il ne vous frappait pas, Loïc Vental ? Elle n'arrive pas à s'expliquer. Je l'ai protégé comme je pouvais, avec mes moyens. Madame, vous ne l'avez pas protégé, coupe la présidente. Elle est à la barre depuis plus de 2 heures maintenant. Et pas une seule fois, elle n'a prononcé le prénom de son fils, Tony.
Et la mère de Tony risque jusqu'à 5 ans de prison. Merci Anne Le Hénaff en direct du palais de justice de Reims. La justice n'en a pas fini avec les supporters de l'OM qui avaient attaqué la commanderie ce week-end. 14 personnes ont été jugées lundi, mais l'enquête continue et 2 perquisitions ont été menées ce matin. Hugo Hamelin.
Ouais, perquisition dans les locaux de 2 groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. C'est la suite logique de l'enquête puisque les policiers marseillais cherchent toujours les organisateurs de cette manifestation qui a dégénéré en mini-émeute samedi. Alors parmi les groupes visés, le plus important en termes d'adhérents, les Sauce Winners 87. Dans leur local de la Belle de Mai, les enquêteurs ont saisi plusieurs ordinateurs. Perquisition également chez les Commandos Ultra, un groupe cité à plusieurs reprises au tribunal correctionnel lundi, car certains des prévenus qui avaient été interpellés à la commanderie ont déjà eu leur carte là-bas. Donc ce sont 2 groupes visés ce matin sur les 6 que compte l'Olympique de Marseille, qui représente environ 25 000 abonnés. Tous ont d'ailleurs co-signé une tribune hier où ils regrettent les violences commises à la commanderie, mais où ils revendiquent la paternité de cette action avec les risques de dissolution que ça représente. Ils promettent surtout de continuer le combat quoi qu'il arrive tant qu'ils n'auront pas obtenu le départ du président olympien Jacques-Henri Hérault. Donc vous le voyez ce midi, l'OM est toujours assis sur un baril de poudre.
Comme d'habitude. Quant au stade Vélodrome, merci Hugo, le temple du sport de la ville, le maire de Marseille Benoît Payan souhaite le vendre. C'est une gabegie financière, dit-il. Les derniers travaux au Vélodrome avec l'installation d'une toiture avaient coûté 268 millions d'euros. Si vous employez un salarié à domicile, votre prochaine déclaration aux impôts risque de tourner au casse-tête. Une décision du Conseil d'État va compliquer les choses si votre employé n'est pas tout à fait à domicile. Expliquez-nous Arnaud Touche.
Eh bien, le Conseil d'État, dans un arrêt du mois de novembre 2020, vient de dire que les services rendus en dehors du domicile ne sont plus éligibles au crédit d'impôt. Par exemple, pour le Conseil d'État, la garde d'enfants à la maison donne bien droit à un crédit d'impôt, mais quand la nounou va les chercher à l'école, c'est en dehors du domicile. Eh bien là, le crédit d'impôt ne s'applique plus. Pour le fisc, cela a été toléré car il voyait la garde d'enfants comme une prestation globale. Mais avec cet arrêt du Conseil d'État, cela voudrait donc dire que maintenant, il faudrait déclarer d'un côté les heures de garde à la maison et les heures passées à l'extérieur du domicile, ubuesque pour Marie-Béatrice Levaux, la présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France.
Le particulier employeur ne fait pas de facture, il fait un contrat de travail. Il déclare un ensemble d'activités qui sont éligibles au crédit d'impôt, sauf les situations qui ont été encadrées, comme les petites activités de jardinage qui sont plafonnées. Il n'est pas question d'imaginer qu'un particulier employeur va faire 2 contrats de travail dans des activités qui sont complètement, je dirais, incluses.
La balle est désormais dans les mains de Bercy qui décidera de suivre ou non, l'arrêt du Conseil d'État.
Effectivement, c'est assez ubuesque. Merci Arnaud. Et si on roulait propre, l'idée fait son chemin en Europe. Pour la première fois, la vente de voitures électriques ou hybrides a dépassé celle du diesel au 4e trimestre de 2020. Les ventes ont doublé l'année dernière avec 1 million de véhicules. Cette fois, c'était plus confidentiel et la crise sanitaire a accéléré ce changement des mentalités, Christophe Bourron.
Oui, poussé par les aides de l'État, mais aussi les normes européennes de plus en plus sévères sur la pollution qui finalement accélèrent les œuvres des constructeurs. Pour preuve, les offres ont triplé en à peine un an. Résultat, près de 540 000 pures électriques vendues et plus de 500 000 hybrides, avec en tête une française, la Renault Zoé, devant la Tesla Model 3. Mais attention au coup de frein, possible, mais en garde François Roudier, il est porte-parole des constructeurs français. En cause, les bornes de recharge, 85% des utilisateurs ont déjà eu affaire à des bornes en panne.
que lorsqu'on va à une borne de recharge, c'est souvent un peu l'aventure. On ne sait pas si on a la bonne carte, on ne sait pas si la borne va fonctionner. On peut avoir des bornes qui vous font croire que vous vous rechargez et vous n'êtes pas chargé. Donc oui, on est très content de ce qui s'est passé en 2020. 2021, il faut vraiment transformer l'essai.
Et puis un autre frein, ce qui est le prix. Mais Renault veut bousculer le marché avec une R5 électrique dont on a beaucoup parlé dans deux ans. Et surtout à l'automne, l'arrivée de la Dacia Spring, déjà annoncée comme l'électrique la moins chère du marché, vraisemblablement autour des 15 000 euros.
Merci Christophe. Pascal Praud, vous n'êtes pas encore passé à l'électrique vous...
Non. Quoi, chez moi, j'ai de l'électricité, mais autrement...
Vous savez trouver la prise.
Certainement, mais moi je veux bien partir à l'électrique, mais pour faire 400 kilomètres, il faut que je m'arrête trois fois, c'est ça? Et je mets deux jours, en gros?
Oui, une fois. Oh, mais le problème, c'est que c'est entre 30 minutes et 3 heures pour se recharger.
Voilà, donc voilà. Vous vous rendez compte. Donc c'est pas demain, manifestement. Hein. Autrement, il faut trouver des prises quand on arrive sur place. Et c'est pas facile, disons-le.
En tout cas, ça peut susciter des témoignages.
Exactement.
N'est-ce pas?
Quelle habile transition pour notre émission entre 13h et 14h30. C'est glaçant, hein, ce que disait Anne Lehnaff.
C'était un procès absolument épouvantable.
Et moi, je n'ai pas souvenir d'un procès comme ça en France.
Si, il y en a eu.
Un petit enfant qui a 60 contusions, des bleus, c'est glaçant.
C'est épouvantable.
Et c'est le procès de la misère, mais la misère culturelle, la misère intellectuelle, la misère sociale, c'est absolument terrifiant. Et effectivement, vous pourrez aussi donner votre avis, pourquoi pas, au 3210, comme on pourra revenir sur l'affaire Richard Berry après les nouvelles accusations de sa fille, Colline. La phrase de M. Coquerel, qui est député de la France Insoumise, savez-vous que le voile d'une mariée chrétienne signifie le fait qu'il y ait une soumission de la femme à son époux? Eh bien, figurez-vous que je l'ignorais. Y a-t-il une discrimination anti-vieux? Est-on en train de sacrifier l'avenir des jeunes? Très souvent, nous posons cette question depuis plusieurs jours. On pourra revenir également sur les attaques sexistes qu'a subies Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, qui sont particulièrement scandaleuse. Et puis Emmanuel Macron, vous l'avez dit, génération sans tabac, ça aussi ça nous fera réagir.
À tout de suite. La météo, Peggy Brush, on ne vous remercie pas pour le couvercle.
Oui, c'est vrai Christelle, je sais, c'est bien gris encore le soleil, il faut le chercher, mais vous aurez un petit peu plus de chance si vous êtes du côté du nord-ouest, surtout vers la Bretagne, la Basse-Normandie, on aura quelques éclaircies. Également sur les Pyrénées, la Corse, où le ciel sera juste légèrement voilé ailleurs. Un ciel chargé avec cette perturbation peu active, hein, donc ça veut dire très très peu de pluie entre l'Aquitaine et l'Alsace. Une accalmie qui fait du bien puisqu'il y a encore 16 départements en vigilance crue, 15 en orange dans le sud-ouest, les Hauts-de-France et la Saône-et-Loire, et le Lot-et-Garonne est toujours en vigilance orange. Les températures, elles sont en légère baisse, mais toujours très douces pour la saison. 9 à Metz, 10 à Paris, Cherbourg, 13 à Lyon et La Rochelle, 15 à Toulouse et 16 à Biarritz, même 18 à Ajaccio.
Merci Peggy. Une pause, ensuite le rappel des titres et vous pourrez dialoguer avec Pascal Praud. Vous pouvez faire le 32-10.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Et c'est l'affaire Richard Berry qui vous fait une nouvelle fois réagir en ce début d'émission. Bonjour Sabine, vous êtes avocate.
Oui, bonjour Pascal.
Merci d'être avec vous, avec nous. Vous êtes choquée par ce déballage médiatique?
Ah oui. Franchement, oui. Je suis contre la prise de parole publique comme ça. Ça me choque énormément.
Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi, le rappel des titres avec Christelle.
La CGT espère un printemps social, journée de mobilisation aujourd'hui avec la FSU solidaire au nom de la défense de l'emploi et de l'amélioration des conditions de travail, des défilés dans toute la France. Mais Philippe Martinez de la CGT ne se fait pas d'illusions sur le niveau de la participation dans le contexte sanitaire. Jean Castex s'exprimera à 18h, nouveau bilan sur l'épidémie, pas de restrictions attendues, plutôt un appel à la responsabilité collective et une pression sur les entreprises pour intensifier le télétravail. Emmanuel Macron souhaite que ceux qui auront 20 ans en 2030 soient une génération sans tabac. Il souhaite aussi, face à l'alcool, rendre les avertissements plus visibles contre les excès sur chaque bouteille. Le chef de l'État a présenté ce matin un plan cancer mobilisant 1,7 milliard d'euros sur 5 ans. L'idée, c'est de ramener les cancers évitables de 150 000 par an à moins de 100 000. La décrue se confirme dans le sud-ouest, mais la Garonne a tout de même atteint 10,20 m dans la région de Marmande, 9,60 m 69 à la Réole où nous étions tout à l'heure. 45 routes départementales sont coupées, 12 submergées et 6 écoles fermées. Le début du tournoi des 6 nations, ce sera samedi à Rome. Dans le 15 de France, titularisation à l'arrière de Brice Dulin et de Gabin Villière et Teddy Thomas sur les ailes.
Les auditeurs ont la parole.